commence ce journal avec une étude parue dans la revue Nature et le premier supraconducteur à température ambiante.
Les supraconducteurs, ce sont des matériaux qui ne montrent aucune résistance électrique, de façon à ce que l'électricité puisse les traverser avec une efficacité proche de 100%. Mais ils ne fonctionnent qu'à basse, très basse température. Ça fait une dizaine d'années que l'on recherche un supraconducteur à température ambiante et que l'on pourrait déployer à la pression atmosphérique. Ce serait un bond technologique majeur. Des chercheurs américains ont découvert qu'un assemblage d'hydrogène, de soufre et de carbone devient un supraconducteur à 15 degrés Celsius, sous des pressions en revanche très élevées, d'environ 300 gigapascales, c'est-à-dire à peu près 3 millions de fois la pression à laquelle nous vivons. Pour la première fois, un matériau devient un supraconducteur au-dessus de 0 degré. Ces résultats ont encore besoin d'être confirmés, mais si c'est le cas, c'est un jalon important qui vient d'être franchi. Marie-Aude Méasson est chercheuse CNRS à l'Institut Nel à Grenoble.
Les deux mesures qu'eux, ils ont employées pour mettre en évidence cet état quantique supraconducteur, c'est une mesure de transport électrique et une mesure qu'on appelle la susceptibilité magnétique. Donc, la première mesure permet de montrer que le composé est effectivement un super conducteur, c'est-à-dire que les électrons dans la matière vont circuler sans aucun frein. Et la deuxième propriété, qui s'appelle l'effet Meissner, est la capacité de ce matériau à repousser tout champ magnétique qu'on lui appliquerait. Et en combinant et en prouvant, en montrant ces deux expériences qui sont vraiment des expériences de haut vol, on peut en conclure que le matériau est bien devenu un supraconducteur. C'est un jalon important parce que ça montre que c'est possible d'atteindre cet état supraconducteur à de telles hautes températures. Alors que par exemple, il y a 20 ans, je dirais peut-être plutôt 30 ans, les gens affirmaient qu'on ne pouvait pas dépasser 30 Kelvin. Donc 30 Kelvin, on est à moins de 140 degrés Celsius. Donc, pour l'instant, ces matériaux, ne sont pas stables lorsqu'on relâche la pression, c'est-à-dire que ce ne sont pas des matériaux métastables. En revanche, ces études ouvrent une voie pour mieux comprendre quelle est l'origine de la supraconductivité dans ces matériaux et pour éventuellement prédire des matériaux qui pourraient être supraconducteurs à des pressions plus faibles, tout en restant à des températures de transition très élevées. Et éventuellement, le Graal serait d'atteindre un matériau qui serait métastable, donc à pression ambiante, métastable, mais toujours en restant supraconducteur au-dessus de 0 degré Celsius.
En bref, une étude parue dans la revue eLife vient de percer les mystères de la régénération d'une petite méduse, Clitia hemisphérica.
Oui, même lorsqu'elle est déchiquetée par un prédateur, la petite méduse Clitia a la capacité de se régénérer. Lorsqu'elle est coupée en deux, en quatre ou même en huit, l'animal se reforme en autant de petites méduses et elle reprend sa forme en quelques heures. Une équipe du CNRS a étudié des milliers de méduses découpées. Dans un premier temps, elles reprennent leur forme dans un mécanisme cellulaire proche de la cicatrisation telle que nous la connaissons. Ensuite, ce sont les muscles qui régulent le remodelage et qui se réorganisent en fonction des tensions qu'a provoqué la blessure. Grâce aux fibres musculaires adjacentes, la méduse peut rapidement régénérer sa bouche.
Selon une étude parue dans Nature Communications, les îles ne sont pas assez protégées.
Et les zones insulaires sont à la fois des zones de forte biodiversité, mais aussi des épicentres d'extinction. En termes de perte d'espèces endémiques, il s'agit des écosystèmes les plus fragiles. Et pourtant, selon cette enquête réalisée par une équipe française, à partir d'une base de données mondiales, pour plus de 2300 îles, la moitié de ces îles ne possède aucune aire protégée. Selon les auteurs, il est urgent de renforcer les efforts de protection de ces zones insulaires.
On poursuit avec une étude parue dans la revue Neuron. Les chercheurs ont suivi en temps réel l'activité de la dopamine et de la sérotonine dans le cerveau.
Une équipe britannico-américaine s'est intéressée à la transmission de ces deux messagers chimiques chez des patients éveillés alors qu'ils étaient en train d'effectuer une tâche que l'on appelle une tâche perceptuelle de prise de décision. C'est-à-dire que les patients voyaient quelque chose sur un écran et devaient déterminer ce qu'ils venaient de voir. L'expérience a été réalisée directement dans un bloc opératoire. Les chercheurs ont utilisé des électrodes qui leur ont permis de mesurer le signal électrique des neurones en intracérébral, directement dans les neurones. L'activité de ces neurotransmetteurs a donc été suivie en temps réel et elle n'est pas tout à fait celle que l'on attendait. Maud Baudouin-Gobert est chercheur postdoctoral au Centre de recherche en neurosciences de Lyon.
Les auteurs du papier utilisent des électrodes un peu particulières et en fonction du changement de signal électrique qui est mesuré, ils ont tout un arsenal mathématique de modélisation qui leur permet d'identifier le messager chimique qui a été libéré à tel ou tel moment de la tâche. Et c'est donc vraiment une mesure d'un signal électrique qui est ensuite transformé, qui est modélisé pour savoir si c'était donc de la dopamine ou de la sérotonine ou les deux en même temps qui étaient libérés. Vraiment la découverte principale du papier, de cet article, c'est l'implication de ces deux messagers chimiques dans la perception sensorielle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à présent, on avait cette image de la dopamine et de la sérotonine qui étaient donc deux messagers chimiques impliqués dans les aspects de motivation, de récompense. C'est-à-dire qu'ils étaient libérés lorsque on obtenait quelque chose et traditionnellement, on disait que quand on obtenait quelque chose de positif, il y avait libération de dopamine et quand on obtenait quelque chose de négatif, c'était en lien avec une libération de sérotonine. Et en fait, ce que les auteurs montrent dans ce papier, c'est qu'il y aurait déjà libération de ces neurotransmetteurs vraiment très tôt dans la tâche comportementale qu'on demande aux patients de faire lorsqu'il y a une notion de perception sensorielle et que la sérotonine notamment serait impliquée dans l'incertitude de perception, c'est-à-dire quand on voit quelque chose, mais on n'est pas très sûr de ce qu'on a observé. Cette étude met en avant le fait que on peut avoir des libérations de dopamine et de sérotonine qui encodent une information qui n'est pas en lien avec la motivation et avec la récompense, mais vraiment plutôt en lien purement avec la perception, avec les informations sensorielles qu'on reçoit. Et ça n'avait jamais été démontré de cette manière-là chez des humains.
En bref, selon une étude parue dans Evolution Letters, les crapauds s'hybrident, même avec une farandole de chromosomes sexuels différents.
Oui, chez les mammifères, vous devenez un mâle lorsque vous héritez du gène Y de votre père. C'est le XY masculin. Et si vous héritez de son gène X, vous devenez une femelle, XX. Chez les oiseaux, c'est l'inverse. C'est la mère qui possède deux chromosomes sexuels différents, les chromosomes Z et W. Et pour les amphibiens, eh bien, tout est possible. Une équipe franco-chinoise a étudié des lignées de deux espèces de crapauds. L'analyse génétique révèle que le crapaud épineux a des chromosomes XY, tandis que son cousin, le crapaud commun, utilise, lui, des chromosomes ZW. Voici un exemple de plus de la flexibilité sexuelle des amphibiens.
Cette semaine, dans le Journal des Sciences, nous avons parlé de la spaghettification d'une étoile par un trou noir, des anciennes traces d'eau à la surface de l'astéroïde Bennu, de la plus grande analyse épidémiologique sur le Covid-19 en Inde, mais également cette semaine dans l'actualité scientifique, Natacha est en ultra bref.
Au pic du midi, le télescope Bernard Lio s'offre une seconde jeunesse. Construit il y a 40 ans, l'observatoire expérimente un nouvel instrument astronomique, le NeoNarval. Avec son spectropolarimètre ultrasensible, combiné à la vélocimétrie, l'instrument peut mesurer les mouvements imperceptibles d'une étoile, de quoi détecter la présence d'exoplanètes. Les habitants de Singapour peuvent utiliser la reconnaissance faciale pour toutes leurs démarches administratives, les déclarations d'impôts, les demandes de logement, etc. Cela s'appelle SingPass Verification. L'État pense étendre ce système biométrique aux banques en ligne ou pour faire l'appel dans les écoles. Des associations de défense des droits humains s'inquiètent d'une surveillance de masse des Singapouriens. Et enfin, deux études parues hier prouvent que les données de smartphones peuvent être utilisées pour prédire efficacement les épisodes de rechute chez les patients schizophrènes. Un algorithme de machine learning a analysé la fréquence et la durée des appels. L'IA a pu repérer les anomalies comportementales un mois avant une rechute.
Et on termine comme chaque semaine par notre rubrique de science improbable. Cette semaine, Natacha, selon une étude parue dans Proceedings of the Royal Society B, certains animaux peuvent utiliser l'os de leur pénis pour extraire le sperme d'un rival.
Et la plupart des mammifères ont un baculum, le fameux os pelvien qui se trouve dans le gland du pénis et que l'espèce humaine a perdu. Une équipe britannique a examiné le baculum de 82 espèces, chiens, loups, lions, ours, morses, visons et même des loutres. Et selon eux, la forme de l'os du pénis, en pointe ou en crochet, pourrait jouer un rôle dans ce qu'ils appellent la compétition sexuelle post-copulatoire. Par exemple, le baculum du blaireau au miel ressemble à une cuillère à glace. Il semble être conçu pour évacuer les autres spermatozoïdes qui seraient présents avant lui. Ces formes complexes des os du pénis sont peut-être un moyen pour les mâles d'assurer leur paternité.
Et que mes prochains rivaux prennent garde. Merci beaucoup Natacha et à la semaine prochaine pour la prochaine Journal des Sciences.